Grosse nouvelle tôt ce matin, on a appris la faillite du fabricant suédois de batteries de véhicules électriques Northvolt. C'est un nom qu'on connaît pas mal ici au Québec. Donc, faillite de la maison mère de Northvolt en Suède. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une grande surprise ou non? On s'en va où avec ça? Surtout Northvolt au Québec. On va jaser de tout ça avec l'analyste politique à LCN et au Journal de Québec, ainsi que directeur principal au cabinet des relations publiques chez National, Marc-André Leclerc. Bon matin.
Bon matin.
Merci d'être là avec nous ce matin, Marc-André.
Ça fait plaisir.
Marc-André, pas une grande surprise, puis corrige-moi si je me trompe, la faillite de Northvolt en Suède?
Non, c'est pas une surprise. On voyait ça venir depuis quelques mois déjà, là, de cette faillite-là. On savait que la compagnie suédoise, la maison mère, avait beaucoup de difficultés. On savait également, là, même avant la pause des fêtes, qu'elle cherchait de nouveaux capitaux. Et là, clairement, ce qu'on a appris dans les dernières heures, c'est qu'ils n'ont pas réussi là, à aller de l'avant dans cette recherche-là d'investissement. Même il y avait eu des licenciements, là, entre autres une vague de 1600 employés qui avaient été congédiés là, l'automne dernier. Donc, malheureusement, pour Northvolt, là, clairement, c'est un peu écrit dans le ciel, là, l'annonce qu'on a ce matin. Là.
Marc-André, pas nécessairement une bonne nouvelle, on le sait, pour Northvolt au Québec, mais pas nécessairement la fin non plus. C'est quoi la suite des choses ou la situation actuelle pour Northvolt au Québec?
Ben, c'est ça qui va être intéressant à suivre, parce que au courant de l'automne, lorsqu'on a su là, que la maison-mère était en danger, le gouvernement du Québec s'est fait très rassurant sur la suite des choses. Également, même la compagnie là, disait que la division nord-américaine là, de Northvolt avait des sous, avait des liquidités. On parlait à ce moment-là, à l'automne, d'environ 330 millions, donc assez pour traverser l'année 2025. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-ci? Là, c'est là que ça va être intéressant de voir ce que le gouvernement du Québec, comment le gouvernement du Québec va réagir au cours des prochaines heures, parce qu'on peut sans doute s'attendre à une réaction de leur part. Là, c'est tellement été un dossier qui a fait beaucoup jaser au Québec dans la dernière année. Également de voir ce que la compagnie va dire. Ce que je disais un peu ce matin des réactions de la compagnie, c'est bon. Clairement, s'il reste des sous dans la filiale nord-américaine, est-ce qu'un autre joueur de l'industrie des batteries pourrait acheter cette division-là qui touche l'Amérique du Nord et aller de l'avant avec ce projet? C'est sans doute peut-être une possibilité qui est sur la table. Et je suis persuadé qu'au côté du gouvernement du Québec, on va travailler, au moins être à l'écoute. On sait qu'on voulait pas mettre de l'argent supplémentaire, mais au moins être à l'écoute là pour voir comment le gouvernement pourrait peut-être faciliter la venue d'un nouveau joueur qui pourrait acheter seulement la portion nord-américaine et que le projet en Montérégie puisse aller de l'avant. Là.
Sans investir d'argent, comment le gouvernement, Marc-André, peut aider justement un nouveau joueur à venir s'installer en Montérégie?
Ben, c'est ça qui est difficile. Hein? C'est sûr qu'un nouveau joueur va vouloir avoir peut-être des nouvelles sommes injectées, sauf que le gouvernement, on a compris au cours des dernières semaines que c'était politiquement difficile pour eux d'allonger plus. Hein. Il y a déjà 710 ouais. millions qui ont été injectés de la part du gouvernement du Québec.
Dirais-tu que ça serait un suicide politique du côté de la CAQ si on venait à investir davantage que les 710 millions déjà perdus?
Oh, ça serait très risqué. Ça serait très risqué dans le contexte actuel. C'est sûr, ça serait risqué pour eux. Bon, ça serait peut-être pas la fin, mais je pense pas qu'il y ait de la volonté du côté du gouvernement du Québec de nécessairement remettre des sous dans le projet. Peut-être d'essayer d'être un facilitateur en regardant, en parlant avec leurs contacts pour travailler, trouver quelqu'un dans le milieu aussi un peu similaire. Hein, Lyon électrique également, les autobus électriques également, le gouvernement du Québec est actuellement en train de chercher de nouveaux investisseurs. Donc, clairement, c'est sûr qu'on voudra pas laisser tomber Northvolt aussi facilement. C'est sûr qu'on va être à l'écoute. Il faut se rappeler qu'à l'automne 2023, lorsqu'on a annoncé ce projet-là, et où les deux paliers de gouvernement ont annoncé pour 2,74 milliards de dollars, tu sais, M. Legault était extrêmement emballé, là. Il nous disait que c'était une journée historique, que c'était comme le projet de la baie James, avec les barrages. Donc, pour M. Legault, là, c'est extrêmement important. Est-ce que c'est la fin de... Si jamais ça va pas de l'avant avec notre vote, est-ce que c'est la fin de la filière batterie au Québec? Probablement pas. Également, c'est toute la question de est-ce qu'on prend des... Est-ce qu'on savait sans doute, et ça, il faut être honnête, le fait que c'est un risque, ce genre d'entreprise-là, dans une nouvelle technologie qui est les batteries. Et est-ce que le Québec, on veut risquer ça? Est-ce qu'on veut jouer en compétition avec, à l'époque, on se rappellera que notre vol également regardait dans d'autres coins au Canada, dans d'autres coins aux États-Unis. Également, Joe Biden là, avait mis des programmes très alléchants pour attirer ces entreprises-là. Le fédéral a décidé, d'accoter ces programmes-là. Fait que c'est toute une décision également d'orientation politique gouvernementale, à savoir est-ce qu'on veut aller jouer là-dedans de cette nouvelle technologie-là. Quand on attend François-Philippe Champagne, qui est toujours ministre de l'Industrie à Ottawa, ben lui, il dit que ça vaut le coup. Également, lorsqu'on entendait Pierre Fitzgibbon également, il nous disait que ça vaut le coup. Il y aura sans doute peut-être un repositionnement à faire au niveau gouvernemental. Est-ce qu'on embarque dans ce genre de projet-là dans les prochains mois, prochaines années?
Marc-André, est-ce que ça serait un coup dur pour l'image de la CAQ si jamais c'est la fin de la saga Northvolt au Québec?
Je pense que oui, parce que c'est extrêmement identifié à un personnage qui est extrêmement fort dans le gouvernement, qui est plus là aujourd'hui, qui est Pierre Fitzgibbon, l'ancien ministre de l'économie, de l'énergie et de l'innovation. Donc, c'est sûr que c'était très collé à la CAQ, le fait également qu'on ne fait pas de BAP, on est allé rapidement. La présentation, comme on jasait tout à l'heure, le fait que c'est une journée historique. Mm-hmm. C'est sûr que rendu à l'élection de 2026, pour les adversaires, si jamais ça va pas de l'avant, c'est sûr que dans l'imaginaire québécois, c'est un projet qui a marqué, qui marque l'électorat, qui marque les gens. Fait que c'est sûr que si jamais il y a pas de, le projet ne lève pas de terre, puis il n'y a pas d'usine, puis il n'y a pas de batterie qui s'en viennent dans les prochaines années, également, ça va nuire à la CAQ également. De la façon également que le financement était fait, parce que sur les 710 millions, là, il y a de l'argent qui avait été injecté dans la maison mère. Fait qu'il y a environ trois quarts de ce montant-là qui est perdu, qui est carrément perdu à l'heure actuelle. Très difficile de voir comment on va pouvoir le récupérer. L'autre portion, ben, c'est sur l'achat du terrain. Donc, si on peut revendre le terrain, ben, est-ce qu'on va être capable de revendre le terrain au même prix? Ça, c'est un point d'interrogation. Tandis qu'au fédéral, eux, pour avoir travaillé là, avec beaucoup de dossiers là-dedans de financement, au fédéral, c'est complètement différent. Hein. L'argent est comme décaissé une fois qu'on commence à produire des batteries. Là. Fait que du côté fédéral, il n'y a pas de... À l'heure actuelle, et aux dernières informations, il n'y a pas de montants investis qui sont perdus ou jetés dans le feu. Là.
J'ai assisté samedi dernier, Marc-André, à la présentation, l'annonce du 3,5 milliards au chantier Davie. Et François Legault, lorsqu'il a pris la parole, dit « Vous savez, en économie, ce qu'il faut regarder, c'est la moyenne au bâton. Donc, on fait des erreurs, puis on fait également des bons coups. Et voici un bon coup, le chantier Davie, parce qu'on a investi tout près de, avec le gouvernement fédéral, tout près de 800 millions pour refaire le chantier. » Par contre, quand on a pris cette décision-là, on savait qu'on faisait partie de la stratégie navale de la garde côtière. Donc, on savait qu'on allait avoir des contrats d'envergure. Dans le cas de Northvolt, on a pris la décision d'y aller à grands coups de centaines de millions, mais en n'ayant aucune assurance. Tu sais, le premier ministre, là, quand il parle de moyenne au bâton, là, faut-tu qu'il frappe quand même à 100 % dans des investissements majeurs comme Northvolt et les chantiers Davie?
Ben là, c'est ça. Là, c'est là la grande question, à savoir, est-ce qu'on demande au gouvernement de frapper à 100%, tu sais, frapper pour 1000, là, comme au baseball? Mm-hmm. Est-ce que c'est ça qu'on demande? Et moi, j'ai toujours cru que, justement, la beauté de notre système, c'est qu'à chaque 4 ans, les électeurs vont aux urnes. Et à ce moment-là, on va pouvoir juger, justement, les 4 dernières années et l'évaluer, cette moyenne au bâton-là. Ce qui est clair, ce qui est sûr, c'est que la moyenne au bâton de M. Legault sera pas de 100%. Ça semble être clair actuellement. Et quand tu es au gouvernement, faut tout le temps que tu sois capable de défendre ton bilan. Mais la question également se pose par rapport aux faits. Est-ce que on essaie au Québec et au Canada de jouer et de jouer dans une nouvelle économie qui est le monde des batteries. Et on a pris la décision, surtout tout ça, l'idée par Pierre Fitzgibbon et François-Philippe Champagne, d'aller de l'avant et d'essayer d'être un joueur important dans le monde de la batterie. Présentement, les résultats, à court terme, sont mitigés. Est-ce que ça va être la même chose dans un an et demi lorsqu'on va aller aux urnes à l'automne 2026? Ça serait surprenant qu'on puisse changer la barque aussi rapidement sur l'investissement dans les batteries. Mais c'est sûr que, tu l'as mentionné, lorsqu'on compare, par exemple, l'annonce qui était faite à la Dévi, lorsqu'on sait qu'on est dans la stratégie maritime, fédérale, tout ça, c'est sûr que le risque il est pas mal moins grand lorsqu'on se lance comme ça dans une entreprise suédoise qui décide de venir s'installer ici au Québec. Fait que c'est sûr qu'on a peut-être il y a plus grand risque là, que le gouvernement court à travers ces investissements-là.
Quand on regarde ça le plus objectivement possible, pis c'est difficile de le faire en ayant la suite des choses, puis ce qu'on sait maintenant, puis ce qu'on a su ce matin. Mais dans le temps où on a commencé à aller de l'avant avec des investissements pour ça, puis à vouloir amener le projet, on se disait que ça pouvait être un coup de circuit. Est-ce que dans le temps, c'était une bonne décision de l'essayer, ce coup de circuit-là? Puis tu sais, comme je dis, c'est dur aujourd'hui de dire oui quand on sait tout ce qu'on sait. Mais dans le temps, quand ça a commencé tout ça, c'était-tu une bonne idée de l'essayer?
Je pense que oui. Je pense où le gouvernement aurait pu être meilleur, c'est dans le fait de le dire ça aux gens. C'est au lieu de nous présenter ça comme un moment historique, charnière, qui va changer l'image du Québec pour les 150 prochaines années, à un moment donné, il faut que tu le dises. C'est moi, j'ai toujours pensé qu'il faut parler à la population de façon intelligente et mettre carte sur table et d'expliquer un peu pourquoi également on va extrêmement rapidement dans ce dossier-là. C'est pour ça qu'il y a certaines étapes qu'on demande à d'autres projets que Northvolt n'a pas eu besoin de traverser, là, comme le BAP, par exemple. Mais moi, je suis tout le temps prôné, lorsque je suis impliqué en politique, de dire, parlons aux gens de façon intelligente et de leur dire, écoutez, là, présentement, on a une opportunité. Est-ce qu'on est sûr de frapper pour 1000? Non. Mais voici pourquoi on le fait, voici pourquoi on va rapidement, parce qu'on est en compétition avec d'autres domaines, d'autres milieux. Voici ce qu'on a ici, puis voici comment on peut changer puis diversifier notre économie. On est conscient que oui, il y a un risque là-dedans. Mais quand ça nous a été présenté, ça nous a pas été présenté avec une portion de risque. Ça nous a été présenté comme la plus belle invention après le pain tranché, puis comme la plus grande journée du Québec. Et moi, j'en reviens pas encore qu'on essaie de comparer ça au moment où ce que le Québec a décidé de faire des barrages à la Baie James. Ouais. Là, parce que faut juste comprendre dans Northvolt, c'est une compagnie étrangère avec des technologies étrangères, avec un savoir-faire étranger qui vient ici construire une usine. Mais tu sais, c'est pas du développement à l'interne. On n'a pas le contrôle à 100% non plus de ce qui se passe ou ce qui serait passé dans cette usine-là. Fait que faut juste comprendre que une usine comme celle-là est venue ici parce qu'on leur a donné des avantages à venir s'installer en Montérégie.
Hey Marc-André, je veux juste profiter de ta présence puis de la jasette ce matin pour te poser une dernière question puis une question stratégie politique et médias. OK? Tu sais, personne n'est vraiment heureux là, en ce moment de la guerre économique puis de la situation avec Donald Trump, mais dans les médias, on parle que de ça ou presque. À quel point la CAQ est quand même, elle va jamais crier ça haut et fort, mais quand même contente que dans les médias, ça parle beaucoup plus de Donald Trump et la guerre économique que le fiasco Saclic et peut-être même Northvolt dans les prochains jours.
Northvolt. Non, c'est sûr. Puis on a vu dans un sondage ce matin, les Jeux au Québec, que la CAQ a gagné 3 points depuis un mois. Donc, le PQ à 30%, puis la CAQ à 24%, donc c'est plus 3 pour la CAQ. C'est comme un peu la première fois depuis le premier sondage que François Legault semble profiter de la guerre tarifaire. Ben c'est sûr, pendant ce temps-là, c'est un peu dommage, hein, mais tu sais, tout ce qui se passe avec Donald Trump, puis la journée hier qu'on a vécue qui est surréaliste, là, avec Doug Ford, puis tout ça, puis une prochaine rencontre jeudi à la Maison-Blanche avec M. Leblanc, M. Ford, M. Loutnick, mais ben, c'est sûr que quand tu es un gouvernement provincial comme le Québec, à un an et demi des élections, ben aujourd'hui, c'est comme si tout va bien dans nos hôpitaux, tout va bien dans nos écoles, tout va bien sur nos routes, tous les dossiers chauds qu'on a vécu au cours des derniers mois, on n'en parle plus, là. Ouais. Fait que Moi, j'ai toujours vu pour la CAQ, là, on va voir comment ça va se confirmer, mais c'est une opportunité. C'est pour un gouvernement qui, comme la CAQ, qui tente de se relancer, c'est une opportunité, là. Quand tu es un gouvernement au pouvoir, quand tu es gouvernement, donc, tu es au pouvoir, à un moment de crise, habituellement, tu es avantagé, là, comparé aux partis de l'opposition. On le voit au fédéral, hein. Même avant l'arrivée de Mark Carney, la cote de Justin Trudeau a grandement augmenté, là. 66% des Québécois sont satisfaits du travail de Justin Trudeau sur la guerre tarifaire, sur le conflit avec Donald Trump, là. Pensez-y, là. Justin Trudeau, aujourd'hui, là, lorsqu'il regarde les sondages et surtout sa cote à lui de popularité qui a grandement augmenté depuis le début de l'année, il était sans doute à 2 semaines, parce qu'il a quitté le 6 janvier, M. Trump est arrivé le 20, il était à 2 semaines de pouvoir rester comme premier ministre et sans doute faire la prochaine campagne électorale. Si M. Trudeau restait encore 2 semaines, il n'y a pas personne à l'intérieur le 20 janvier, parce qu'on se rappelle que le 20 janvier, là, quand M. Trump est en train de signer des décrets présidentiels dans le bureau ovale, là, c'est là, là que ça a commencé vraiment à péter là, à gauche et à droite, à, les menaces de tarifs se sont intensifiées, tout ça. Fait que M. Trudeau, là, il était à 2 semaines, parce que le 20 janvier, au soir, il n'y a pas personne dans son caucus qui aurait demandé à M. Trudeau de quitter à ce moment-là, dans un moment de crise. Fait que Justin Trudeau, il était à 14 jours, en fait, là, de pouvoir rester chef du Parti libéral et de se représenter à la prochaine campagne.
Quand même capoté quand on y pense. Tellement intéressant. Marc-André Leclerc, analyste politique à LCN et au Journal de Québec, ainsi que le directeur principal au cabinet des relations publiques chez National. Marc-André, toujours un plaisir. Merci pour ton temps ce matin.
Merci à vous autres. Bon mercredi.
Salut, salut, bon mercredi.
Wow, Marc-André Leclerc.
Ah, toujours très pertinent. Puis j'aime son point sur la transparence lorsqu'on fait une annonce, d'expliquer pourquoi on le fait puis à quoi ça sert. Mais cette transparence-là est tellement difficile et que ça, ce soit pour n'importe quel gouvernement. Là, ouais. On a toujours tendance à augmenter l'impact d'une annonce pour justement bien paraître. Puis quand on se plante comme avec Northvolt, ben après ça, on paraît très mal. Mais c'est comme si on voulait jamais être transparent ou honnête avec la population, de peur que les gens disent, quand il y a un investissement majeur comme Northvolt, de dire « Ben non, pourquoi tu fais ça? Tu prends un risque.
Ouais. » Mais c'est ça, je pense que puis je suis cynique un peu là-dessus, mais je pense que c'est pas payant d'être transparent en politique. Sinon, tout le monde serait transparent en politique.
Je suis d'accord avec toi, je suis aussi cynique.
C'est poche, ouais. Là, mais je pense que la transparence, c'est pas payant en politique. C'est triste en maudit, mais c'est ça pareil.
C'est drôle parce que ça fait une passe à la palette, cette discussion qu'on va avoir, ouais. Après la pause, parce qu'il y en a un qui est assez transparent, je dirais quand même, c'est le premier ministre de l'Ontario, en tout cas. De ce qu'on peut voir des médias, il est assez transparent, Doug Ford. On va jaser justement de la situation de Doug Ford. Est-ce qu'il prend trop de place? C'est une bonne ou mauvaise chose qu'il prenne autant de place dans cette guerre économique avec les États-Unis? On en jase avec le vulgarisateur d'actualité, Fernel Morissette. Boulevard.